Oui, moi samedi de voir. Est-ce que ça te dit?
Voyage au bout de la nuit, c'est ton émission d'ambiance nocturne sur le Nightlife Underground montréalais. Découvertes musicales, chroniques culturelles et idées de sortie pour divertir tes nuits urbaines. Voyage au bout de la nuit, c'est l'émission nocturne de choc.ca.
Du 11 au 23 juillet, le Festival international Nuit d'Afrique est de retour pour une 31e édition. Profitez des 6 jours de concerts et d'activités gratuites pour toute la famille. Plus de 500 artistes du monde entier viennent à votre rencontre. Ne manquez pas, parmi les grands événements TD Ici Musique, la tornade mexicaine Las Cafeteras, le dancehall antillais de Admiral T, la champeta de Tribu Baharu. Rendez-vous au parterre du quartier des spectacles du 18 au 23 juillet, métro Saint-Laurent. Programmation complète sur festivalnuitdafrique.com.
Choc.ca s'associe aux soirées d'écoute publique en partenariat avec les RIDM et Prime pour la 2e édition du concours de documentaire sonore Le réel à l'écoute. Vous êtes un créateur sonore canadien et vous travaillez sur des œuvres francophones, c'est votre chance de remporter plus de 1 000 $ de prix et une place dans la programmation des RIDM 2017. Vous avez jusqu'au 31 août minuit pour soumettre votre projet sonore de 10 minutes maximum. Pour participer ou obtenir plus d'informations, rendez-vous sur le site de Choc.ca sur l'onglet Le réel à l'écoute.
Le festif de Baie-Saint-Paul dans Charlevoix, c'est 70 spectacles du 20 au 23 juillet à seulement 50 minutes de Québec. Caravane Palace, Xavier Rudd, Daniel Bélanger, Lisa Leblanc, Richard Séguin, Louis-Jean Cormier, À la claire ensemble, Claude Pelgag, Martha Wainwright et plus. Présenté par SiriusXM en collaboration avec Radio-Canada et Hydro-Québec. Merci à Loto-Québec et Desjardins. J'ai hâte au festif. Lefestif.ca.
Vous écoutez Choc pour sortir des ondes. Podcast, musique, découverte sur choc.ca. La musique au rendez-vous.
Croyez-vous que les médias ont une part de responsabilité dans votre défaite?
Pas du tout. Les médias ont toujours raison. Les médias ont toujours raison.
Bonsoir à toutes nos auditrices et à tous nos auditeurs. Vous écoutez la photo média sur les ondes de choc.ca. Ce soir à l'émission, nous allons parler d'un sujet d'actualité, les formes alternatives d'implication politique et repenser l'engagement jeunesse. Pour en parler aujourd'hui, nous avons Tessie Jean-Paul, Marie Chabot-Johnson ainsi que moi-même à l'animation, Émilien Roscanou. Marie Chabot-Johnson qui fait également la technique aujourd'hui et qui a fait la recherche. Merci beaucoup d'être ici ce soir. À l'émission, nous avons un ancien de l'émission qui porte un autre chapeau aujourd'hui, Francis Terrien, qui est agent de communication à l'Institut du Nouveau Monde, qui va nous parler de l'école d'été. Et plus tard à l'émission, nous avons une deuxième entrevue, Nicolas Pilon, président du Conseil Jeunesse de Verdun, qui va nous parler de cette forme alternative d'implication que sont les conseils jeunesse. Donc, nous allons tout de suite commencer en Lyon avec Francis Terrien, agent de communication à l'Institut du Nouveau Monde. Bonjour Francis.
Bonjour Émilien.
Donc, Francis, l'école d'été se déroule du 9 août au 12 août. Donc, c'est plusieurs journées d'activités où on parle d'implication, d'engagement citoyen. Ça se dirige vers un public de 15 à 35 ans. Est-ce que c'est un bon résumé? Qu'est-ce que tu pourrais nous en dire de plus?
Ben, l'école d'été, c'est du 9 au 12 août, donc c'est quelques jours où on invite des jeunes de 15 à 35 ans à participer à différentes activités, soit des conférences, mais des activités aussi plus participatives, des ateliers avec des organismes partenaires sur des sujets précis où les gens sont invités à développer des projets concrets, à développer des propositions concrètes sur un sujet précis. Par exemple, on a un profil sur le vivre ensemble. Les profils, ça, c'est à l'intérieur de l'école d'été, pendant les 3 jours, les gens vont suivre leur profil en fonction de leurs intérêts. Et ils ont plusieurs activités qui sont obligatoires, entre guillemets, à leur profil. Ils ont d'autres activités où c'est plus au choix, où on peut, peu importe le profil, choisir d'autres activités. Il y a des conférences, on a Alexandre Jardin qui va être là, on a Véronique Côté qui est comédienne, auteure, qui fait la pièce de théâtre Jem Hydro, Alanis Obomsawin, une cinéaste à Abenaki. On a une grande programmation, ouais.
Oui, puis ça, dans le fond, ces activités-là débouchent sur des propositions. Est-ce que ça débouche sur un rapport? Est-ce qu'après ça, c'est appliqué par des gens de l'INM qui vont faire les recherches pour concrétiser ces idées-là?
Ben nous, on conserve toujours les voix des jeunes, peu importe, les voix des citoyens en général lorsqu'on fait des projets. Tout ça, c'est gardé dans notre banque. Mais pendant l'école d'été, le dernier jour, c'est la Journée internationale de la jeunesse. On l'organise avec d'autres organisations qui sont regroupées autour de la coalition Engagement Jeunesse, la CEJ. Et à la fin de cette journée-là, il y a un événement qui s'appelle la Tribune Jeunesse. Pendant la tribune, il va y avoir des influenceurs puis des élus de la société québécoise qui vont être présents pour écouter les idées puis les propositions plus concrètes des jeunes. Et à partir de là, ben il y aura potentiellement des personnes qui seront accompagnées dans le développement de leurs idées. Mais il va y avoir une foule assez importante qui va écouter les idées puis les propositions des jeunes.
Puis l'école, dans le fond, Marie, tu voulais peut-être enchaîner?
Oui, en fait, tu as plusieurs projets, t'as un grand public qui va être là. Comment vous faites pour comme créer une dynamique qui fait que tout le monde participe? Ça serait facile que ça soit toujours les mêmes personnes pour monter des projets concrets. Comment vous faites vraiment concrètement?
Bien, pendant les événements, il y a toujours... on a des grands événements, des grandes conférences, mais aussi, comme je disais, il y a les profils puis les ateliers où on est plus en petits groupes. Donc, les personnes qui seraient moins à l'aise, par exemple, d'aller poser une question dans une conversation ou dans une conférence, vont avoir l'occasion de parler, de prendre parole, puis d'agir plus directement dans des plus petits groupes. Donc, je pense qu'il y a différents espaces pour différents types de personnes, ce qui crée une espèce d'atmosphère plus conviviale, puis plus peut-être plus facile d'approche pour certaines personnes qui seraient plus timides dans des conférences, mais plus à l'aise dans des petits groupes, ou vice-versa. Donc, tous les jeunes... d'où qu'ils viennent, que peu importe leur manière de s'exprimer puis de s'engager, ils ont l'occasion de le faire. Puis aussi, j'ai pas mentionné, mais on a différents profils, comme un profil artistique, on a des profils communication, on a des profils mobilisation. Donc, si les gens s'expriment mieux par les arts, ben ils le feront par les arts dans ce profil-là. Puis ils vont avoir l'occasion de rencontrer d'autres jeunes qui ont des profils différents. Donc, ça permet des rencontres nouvelles, mais ça permet aussi de laisser de la place à tous les jeunes en fonction de leurs intérêts puis de leurs intérêts, je dirais.
Oui, parce que souvent, dans des événements comme ça, souvent, c'est des gens qui sont déjà impliqués sur le bord, qui sont déjà intéressés par la chose politique, par les débats d'idées, qui vont comme être attirés davantage par ce genre d'événements-là. Donc, ça serait un moyen efficace, selon toi, de rendre la participation plus ouverte à un plus grand nombre de profils chez les jeunes, donc qui viennent de différents milieux plutôt que simplement des sciences sociales ou des sciences politiques ou des communications?
Ben clairement, si on donne l'espace à des gens en appelant ça art, ben le profil artistique par exemple, les gens qui ont un profil plus artistique vont se sentir clairement plus interpellés. Oui, je crois que quand on crée des lieux qui sont moins formels, ça favorise une meilleure participation. Puis l'école d'été, c'est un bon exemple. On a des gens qui sont très impliqués. Là. On a une élue jeune française qui va participer à l'école d'été.
Ah oui.
On a des participants qui sont aussi très engagés, mais on a des participants pour qui ça va être la première expérience. Puis on espère que ces personnes-là vont demeurer engagées de la manière qu'ils le souhaitent par la suite, qu'ils le souhaitent.
Comment se fait le processus d'inscription, de sélection? Les gens font juste s'inscrire sur le site Internet, puis se présentent ensuite? Il n'y a pas d'autres critères, quoi que ce soit?
Non, c'est ouvert à tous, mais oui, effectivement, c'est via Internet pour la grande majorité. Mais donc, les gens peuvent s'inscrire soit directement en nous contactant via le site web pour s'inscrire, mais aussi, on travaille avec des partenaires ici, au Canada anglais, au Canada français aussi, mais à l'international, qui construisent des délégations de 5, 10, 15 personnes, puis qui viennent à l'école d'été en groupe. Donc, on a des partenaires qui font des inscriptions avec des personnes plus ciblées. Par exemple, Logique ou l'OFQJ, l'Office franco-québécois pour la jeunesse, monter une délégation de Français québécois et de Français en France pour participer à l'école d'été. On a d'autres partenaires, par exemple, qui sont allés chercher des jeunes autochtones, des Canadiens francophones à l'extérieur du Québec. Donc, on a des profils variés, mais n'importe qui, s'ils ne sont pas en lien avec une organisation, peuvent quand même s'inscrire à l'école d'été.
Justement, tu as utilisé les trois exemples que j'ai vus sur mon fil Facebook dans les dernières semaines, les jeunes autochtones, les jeunes français, les jeunes francophones hors Québec. J'ai vu qu'il y avait beaucoup de partenariats qui s'inscrivaient à l'international ou à l'extérieur. Comment vous faites pour monter des partenariats comme ça? Parce que la liste est longue quand on veut aller s'inscrire sur le site de l'INM. Il y a beaucoup d'organismes qui sont associés à l'Institut du Nouveau Monde.
C'est un travail qui s'est fait à travers les années. Là, c'est la 14e édition de l'École d'été. Donc, J'étais pas là pour, à la première pour pouvoir en témoigner, mais aujourd'hui, tu sais, on a travaillé avec des partenaires depuis des années, des partenaires qu'on garde qui, année après année, à l'école d'été, mais aussi à l'école d'hiver, nous aident à faire de la mobilisation dans leur réseau. Puis, ouais, j'imagine que, ben, je l'espère, puis je pense que c'est pour la raison pourquoi ils sont encore avec nous, mais ils doivent apprécier l'école d'été, nos écoles de citoyenneté en général, donc ils récidivent en voulant mobiliser pour probablement créer de l'engagement dans les jeunes de leur réseau dans le but d'améliorer la société dans un objectif très large. Mais...
Oui, on s'entend que améliorer la société, ça peut se faire par différents angles.
Exactement.
Est-ce qu'il y a encore une possibilité pour des jeunes de vouloir faire du parrainage? Je sais que vous aviez mis en place un système pour demander du parrainage quand on n'était pas nécessairement connecté avec un réseau.
Oui, à moins que je me trompe, il y a toujours des places de parrainage qui sont disponibles. Les gens peuvent s'inscrire par eux-mêmes, mais dépendant des profils des jeunes, s'ils répondent au profil de parrainage, je crois qu'il reste des places disponibles, notamment, entre autres, je les ai mentionnées, mais pour les jeunes autochtones puis les Canadiens hors Québec, il y a toujours des places qui sont disponibles.
Bon, c'est bon, on va les connecter parce que vous avez un site qui est très actif, donc allez voir la page Facebook de l'Institut du Nouveau Monde, ça vaut la peine.
Faites-nous suivre aussi sur nos réseaux sociaux, Facebook, Instagram, Snapchat, on est partout.
Ouais, oui, animé par la certaine personne qui nous parle en ce moment.
Exactement.
Francis Thérien de l'INM. Des questions plus en vrac, ça n'a pas nécessairement rapport avec directement avec l'école d'été, mais l'Institut du Nouveau Monde fait beaucoup d'activités au courant de l'année. Est-ce que tu pourrais nous parler un peu plus comment vous faites pour aller stimuler l'engagement jeunesse, mais pas nécessairement pour un gros événement, mais pour des événements ponctuels à travers l'année?
Bien, comme je disais, on a aussi l'école d'hiver, qui est une autre école de citoyenneté qui se déroule à l'hiver plutôt qu'à l'été. Mais aussi, même dans nos consultations, dans nos activités, nos démarches qu'on fait qui sont plus ou moins en lien directement avec la jeunesse, on tente toujours de mobiliser des gens parce que c'est important que leurs voix soient entendues. Par exemple, je pense à cet hiver, on faisait une conversation publique pour une politique nationale d'architecture. Puis par exemple, au cégep de Jonquière, il y a une délégation d'étudiants et d'étudiantes qui se sont mobilisés puis sont venus discuter au forum qu'on fait à Jonquière. Mais fait, je pense que la clé, en fait, c'est d'aller vers dans les endroits où les jeunes sont, que ce soit les institutions scolaires, les événements où ils participent, puis développer des nouvelles formes de consultation ou d'activités de participation publique qui vont vers ces jeunes-là plutôt que d'attendre qu'ils viennent vers nous. Puis on a aussi d'autres démarches, par exemple une démarche sur le vivre ensemble qui dont le comité de pilotage est composé de jeunes. Puis on a eu une autre démarche sur l'engagement des femmes. Mais ça dit aussi que les jeunes, en fait, ils aiment ça avoir... tout le monde sont intéressés à s'impliquer de manière générale, mais parfois sur des sujets plus précis ou parfois sur des sujets qui plus larges, mais il faut aller vers les personnes plutôt que d'attendre passivement qu'ils viennent vers nous.
Oui, dans le fond, c'est une façon d'être proactif parce que souvent... Les jeunes ont dit, bon, les jeunes s'impliquent pas, les jeunes sont désabusés de la chose politique, mais c'est peut-être juste que les structures en place leur conviennent pas, sont trop rigides ou s'adaptent pas à leur réalité. Puis dans le fond, faut trouver le moyen de joindre les deux bouts. Dans le fond, on peut pas demander aux jeunes de venir s'impliquer d'eux-mêmes tout seuls sans jamais leur tendre la main. Il faut que ça soit un effort commun, n'est-ce pas?
Ouais, puis je dirais que ça s'applique à la population en général. Là,
oui, oui.
Et lorsqu'on travaille parfois avec les gouvernements ou les villes, par exemple, pour développer des politiques, quelles qu'elles soient, nos consultations sont pas toujours formelles avec trois commissaires à l'avant. Puis en fait, on fait jamais ça presque. Trois commissaires à l'avant, une salle, des micros. On essaie de faire ça, de varier, par exemple... Pour la commission sur l'éducation à la petite enfance qu'on a eue dans la dernière année, on s'est promené partout au Québec, puis aussi à Montréal. Et puis on a eu, dans les après-midi, il y avait des groupes d'intérêt, donc des regroupements de CPE, des regroupements de garderies privées, des gens qui sont organisés, qui venaient présenter des mémoires, présenter leur avis.
Oui.
Puis en soirée, ça aussi c'est un élément, il faut le faire quand les gens sont disponibles. Donc en soirée, on recevait des gens, peu importe, des citoyens, des citoyennes qui s'intéressaient à la question de la petite enfance. Ils venaient, ils et elles venaient, discutaient autour de table sous forme de conversation de café. Puis ensuite, chaque table avait un porte-parole. On ramenait la parole des tables en plénière. Puis ça a mené à un rapport qui est assez étoffé puis qui a été salué par plusieurs dans les médias et dans la classe politique.
Oui, puis il y a une multiplication des moyens d'action, des moyens d'aller, des moyens de consultation, dans le fond. Par exemple, dans Rosemont, un exemple que je connais plus, il y a la démarche Décider Rosemont Ensemble avec le Forum social. Puis ça, c'est des démarches qui s'échelonnent sur plusieurs années où, dans le fond, les corporations de développement communautaire, en lien avec les organismes communautaires, les groupes de citoyens, vont s'asseoir dans des tables ensemble pour penser l'avenir du quartier. Donc ça, c'est des démarches qui sont, selon moi, très, très montréalaises, mais qui se développent de plus en plus même à l'extérieur de Montréal, la démarche consultative. Là, j'ai hâte de voir, parce que là, il y a toutes sortes de choses qui se discutent avec les référendums municipaux, mm-hmm. avec le projet de loi du ministre Coiteux. Donc ça fait peur dans la réalité montréalaise qui est très, très habituée à cette forme de démocratie directe-là. Mais c'est ça. Moi, je pense qu'il faut aller vers ça, faire une multiplication des modèles consultatifs.
Oui, parce que sans se positionner sur les référendums, il y a plusieurs méthodes de consulter les gens. Puis un autre exemple, puis que ça pourrait s'appliquer partout au Québec, on travaille avec le CIUS de l'Est de l'île de Montréal sur une démarche plus large.
Oui, 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 j'avais vu ça passer à l'INM, c'est ça.
Exact. Puis dans ces... Avec eux, il y a des tables de citoyennes. Il y a des gens économiques, des gens du communautaire, des citoyens, citoyennes.
Oui, souvent des chambres de commerce vont participer à ces discussions-là.
Ouais, puis eux s'assoient, puis développent, discutent sur des sujets précis ou moins précis de comment on va offrir les services de santé dans l'île de l'île de Montréal. Mais ce modèle-là, ça pourrait s'exporter dans à peu près tous les CIUS parce qu'ils ont à peu près le même type d'organisation du Québec. Donc, c'est pas parce qu'on est à Montréal que c'est des démarches qui s'appliquent pas partout au Québec non plus. Puis nous, on fait d'ailleurs des démarches avec des villes à l'extérieur de l'île de Montréal, dans la région de Montréal. On travaille avec la ville de Québec. Donc, les démarches de consultation, ça... S'il y a une volonté politique, il y a la possibilité de le faire partout.
Oui, c'est ça, parce que même à Rosemont, on s'inspirait de démarches consultatives faites au Saguenay-Lac-Saint-Jean, d'autres démarches qui se faisaient à Rimouski, en Gaspésie. Donc, vraiment, c'est tu l'as bien dit, là, c'est la volonté politique. Oui, Marie?
Oui, bien, on a parlé de plusieurs nouveaux modèles, puis c'est un peu ça qu'on veut aborder pendant l'émission tout le long. Ben, c'est voir comment on peut consulter et comment on peut faire engager les personnes. Mais dans les activités, on a montré plusieurs exemples. Comment les gens réagissent en général? Est-ce qu'on voit un changement dans l'implication des personnes quand tu changes de modèle?
J'ai pas participé à
pas très clair,
des centaines. Mais je pense que tu me diras si c'est pas la bonne réponse. Là. Mais on n'est pas participé à des centaines de consultations faites avec l'INM, mais à quelques-unes, entre autres, à quelques-unes quand même. Puis habituellement, ça se passe bien. On commence toujours par une séance d'information sur le sujet pour que tout le monde parte avec des bases. Similaire, puis tout le monde a les mêmes compréhensions des enjeux.
Oui, c'est important parce que ça donne rien de faire une consultation citoyenne quand tu donnes pas les informations aux gens au préalable. Ils peuvent pas se faire une idée sur ces sujets-là qui sont parfois techniques, parfois...
Nous, on fonctionne en trois étapes, là, informer, débattre, proposer.
Oui.
Puis donc, il y a une phase d'information. Puis dans cette phase d'information-là, aussi, on fait pas la pédagogie, mais on explique comment la consultation va se passer, comment l'activité, la démarche va se passer. Puis les gens, en tout cas à celle où j'ai participé, puis ça a été quand même divers, là, j'ai jamais vu de point d'interrogation flagrant dans les visages des gens. Ça semble assez clair. Puis les personnes sont prêtes à discuter. Puis ça peut être surprenant, mais des fois, des personnes avec des points de vue diamétralement opposés sur un sujet qui sont assis à une même table parce qu'ils ne savaient pas avec qui ils s'assoyaient lors d'un forum citoyen ou d'une conversation de café, peuvent débattre, discuter de manière complètement... respectueuse quand c'est bien organisé, quand c'est fait avec de l'information, quand on laisse l'espace aux gens pour s'exprimer. J'ai jamais vu de gros débordements.
Donc les gens sont satisfaits, puis c'est ça qu'on veut à quelque part. On veut que ça soit divertissant, enrichissant. Donc, on peut peut-être conclure là-dessus parce qu'en fait, c'est ça qu'on veut. Nous, c'est à quelque part, c'est que l'engagement politique soit quelque chose de plus que étudié dans les livres, c'est que ça, on puisse le vivre en tout temps. Mais on va rappeler qu'à l'Institut du Nouveau Monde, l'école d'été se tient du 9 au 12 août et qu'il est encore possible de faire des parrainages. Donc, allez voir sur le site de l'INM, consulter leur page Facebook, Twitter et Instagram pour voir un peu qu'est-ce que Francis fait tous les jours.
Et Snapchat aussi, n'est-ce pas?
Snapchat, oui, on essaye.
Comment vous faites Snapchat?
J'essaie d'être assez ludique. On essaie de de publier les coulisses de l'école d'été. Donc, comment on se rend jusqu'au 9 août? Mais aussi, mis à part le parrainage, là, il y a de l'inscription qui se fait encore pour les prochaines semaines. Donc, n'hésitez pas à vous inscrire, là, il reste des places.
Oui, puis je pense qu'il y a des frais associés à l'inscription, mais parfois on peut obtenir l'aide de son député aussi si jamais on veut s'inscrire. Donc, allez voir votre député provincial, il y a des fonds pour ça aussi.
Contactez-nous, on va vous référer aux bonnes personnes.
Ils ont les adresses.
Bon, mais moi je serai là à l'école d'été, donc on pourra vous en faire un résumé dans une prochaine émission.
Génial. Ben merci beaucoup Francis Taillin.
Merci.
Je rappelle que tu es agent de communication à l'Institut du Nouveau Monde. Merci d'avoir été à l'émission.
Ben merci pour l'invitation.
On va écouter Vol plané de Caterino, une artiste que j'ai découvert très récemment sur son album Brume, son premier EP. On écoute ça.
Apparaître, oh t'es belle, mes manacelles ne supportent que le poids d'un oiseau. Je pourrais m'y faire, ou tu pourrais me faire une place au soleil. Donner un élan, je deviendrai ton vin. Pour te donner un élan, je deviendrai ton vin. Au-dessus de nos têtes, bien au large des cieux, je ne tomberai pas. Nous naviguerons auprès et nous finirons là.
Vous écoutez toujours La Faute aux médias sur les ondes de choc.ca en compagnie de votre animateur Émilien Roscanou. Cette semaine à l'émission, on vous parle de l'engagement alternatif, des diverses formes d'engagement citoyen, surtout dans une optique jeune. Et puis nous, on est des jeunes un peu plus engagés que la moyenne, je veux pas dire ça comme ça, mais peut-être un petit peu. Tessie, toi, tu fais partie d'un organisme, Diversité artistique Montréal, qui tient justement un atelier à l'Institut du Nouveau Monde, à l'école d'été qui s'en vient là en août.
Effectivement, ouais, donc ça déboulonne directement sur notre sujet. Donc en fait, Diversité Artistique Montréal a effectué une nouvelle collaboration. Donc l'équipe de DAM va donc animer la table ronde. Le sujet porte sur des arts trop blancs, action et réaction. Donc en fait, c'est vraiment sur c'est vraiment une table de discussion à savoir comment
Comment les...
Oh, excuse-moi, Tessie, on a eu un petit problème technique. on va recommencer l'entrevue si ça te dérange pas. Donc toi, tu fais partie de Diversité Artistique Montréal. C'était juste pas le bon micro, on s'excuse à la régie, là. On avait allumé le mauvais micro, mais là, on a allumé le bon. Donc, salut Tessie.
Allô?
Oui, c'était lui, Tessie. Donc, bienvenue parmi nous. Donc, toi, t'es à Diversité Artistique Montréal, puis vous tenez un kiosque, dans le fond, une activité à l'école d'été.
Exactement. Donc, Dame, l'équipe de Dame va animer justement une table ronde. Le sujet de la table ronde, ben, le titre, en fait, c'est « Des arts troublants ». Action, réaction. Donc, en fait, c'est vraiment pour permettre aux gens de pouvoir s'exprimer, autant les artistes de la diversité culturelle, vraiment établir justement un espèce d'état des lieux sur et réfléchir surtout sur la situation actuelle au Québec des arts et de l'inclusion de la diversité culturelle dans les arts.
Puis c'est un sujet qui a fait beaucoup parler de lui récemment, justement quand il y avait eu le défilé du 375e de Montréal. Justement, il y avait eu cette polémique-là parce que dans une foule immaculée de blancs, des gens blancs qui étaient dans le défilé, sur un char allégorique poussé par des gens noirs. Donc, ça a fait beaucoup jaser. J'imagine que tu as dû en entendre parler beaucoup aussi
beaucoup,
de votre côté.
C'est important de revoir la façon qu'on décide de livrer les arts. C'est important de voir, de réellement comprendre qu'est-ce qu'est la diversité montréalaise.
De développer une sensibilité.
Effectivement, c'est ça. C'est vraiment ça qu'il faut parce que de vouloir faire des partenariats, par exemple, avec des communautés, par exemple, en Inde, pour présenter des spectacles de style Bollywood au Québec, ça, c'est pas représenter la diversité montréalaise. Parce que le but, c'est de présenter qu'un Québécois d'origine quelconque puisse se reconnaître dans l'œuvre présentée. Donc, c'est ça. Parce que juste d'exporter une pièce de Chine ou d'exporter une pièce de la Thaïlande, c'est pas ça.
Non, c'est artificiel.
C'est très artificiel.
C'est partir du haut, c'est partir de l'extérieur, alors que déjà, à l'intérieur de nos communautés, à Montréal, mais aussi à l'extérieur de l'île de Montréal, il y a quand même beaucoup de communautés culturelles qui demandent juste à être entendues puis à être représentée, puis qu'on va même pas voir pour qu'elle soit représentée.
Exactement. Non seulement c'est d'être représentée, mais d'être bien représentée.
Oui, effectivement.
C'est ça aussi.
On s'entend parce que, par exemple, il y avait eu... Bon, je sors un peu du cas québécois, mais juste à Hollywood, on parlait à des gens d'origine maghrébine, d'origine arabe. On leur disait, ben vous êtes chanceux, depuis 2001, vous avez plus de rôles au cinéma. Oui, mais quel rôle, tu sais?
Quel genre de rôle?
C'est l'inclusion et la diversité à la Hollywood. Hein,
exactement. C'est vraiment important parce que c'est plus que simplement de savoir est-ce qu'il y a assez de Noirs, est-ce qu'il y a assez d'Asiatiques. La question n'est pas là. La vraie question,
c'est ça. C'est pas un calcul comptable.
C'est pas un calcul comptable. C'est parce que la façon que tu représentes la personne dans les arts, elle impacte directement la façon dont la société la voit. Donc, de pas prendre le soin de pouvoir bien représenter les gens, ben ça crée des problèmes immenses là, dans le sens que les gens te demandent encore. Par exemple, moi, les gens me demandent encore, me disent comme commentaire, ah, tu parles bien français.
Oui, puis même moi, qui ne suis absolument pas racisé, qui soit blanc, je suis un homme blanc, bon, j'ai un nom de famille roumain, puis on me demande encore, tu viens de la Roumanie, tu parles très bien français, ou on m'a déjà même dit, bienvenue parmi nous. Ça témoigne d'un manque de sensibilité flagrant.
Énorme, là. C'est ça.
Franchement, Tessie, ton français est excellent. Écoute, où l'as-tu appris?
T'sais? Écoute, c'est des choses qu'on entend vraiment souvent et qui, en fait, nous permet pas totalement de pouvoir s'identifier à la population. Malgré étant née ici, c'est des choses que vraiment, à chaque fois, c'est des espèces de claques à la figure qui nous disent, ben finalement, mais pourtant, si je prends mon exemple personnel ou l'exemple de plusieurs jeunes qui sont nés ici, qui n'ont jamais mis les pieds dans leur pays d'origine, c'est très difficile de pouvoir vivre cette espèce de double rejet parce que tu ne connais pas ta terre d'origine.
C'est ça.
Et
ça.
La terre d'accueil te redonne toujours dans la figure comme quoi tu n'es pas...
Étranger
pas
dans
vraiment...
le pays de tes parents ou de tes grands-parents.
Exactement.
Étranger dans ton propre pays qui est le Québec dans lequel dans lequel tu es né, dans lequel tes parents sont nés, puis dans lequel tes enfants vont naître, puis vont connaître la même situation, d'autant plus si c'était une personne racisée, une personne de couleur. Donc, c'est affreux comme situation.
Effectivement, c'est presque impossible de le cacher, tu sais, au niveau de la couleur.
Donc, c'est un peu la mission là, de Diversité Artistique Montréal, mais c'est surtout dans les arts là, que ça se concentre.
C'est vraiment dans les arts beaucoup, parce que c'est encore un milieu qui est très homogène, il ne faut pas se le cacher. Dans certains milieux, encore plus. Donc, le but, c'est d'aller percer tout ça, puis d'offrir des alternatives aussi, parce que, tu sais, Dame se retrouve vraiment maintenant dans un côté de collaboration, parce que, oui, il faut pointer du doigt qu'est-ce qui est à pointer du doigt, mais il faut offrir des services que...
De façon constructive.
Exactement.
Dire, il y a des lacunes ici, 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 mais... Pas juste dire qu'il y a des lacunes, mais proposer des solutions de rechange.
Exactement. Donc, à ce niveau-là, c'est pas pour, pour flatter mon organisation, mais à ce niveau-là, je pense que Dame livre bien le travail.
Oui.
Il est capable d'accompagner et pouvoir aussi défendre les intérêts des artistes, des communautés culturelles.
Mm-hmm.
Qu'est-ce qui est très important, parce que, tu sais, on dit toujours que la religion, c'est l'opium du peuple, mais... réellement, tu sais, oui, ça l'est plus ou moins aujourd'hui au Québec. C'est beaucoup plus la culture. Là, comment tu te représentes, comment tu t'identifies, comment tu parles de toi, c'est à travers ta culture.
Donc,
si on n'est pas capable d'inclure les différentes communautés à l'intérieur de la culture québécoise, ben il y a déjà des problèmes, ou d'inclure correctement, parce que c'est pas agréable de se faire encore... caractérisé de façon très naturalisante, très essentialiste, on est rendu dans une autre ère. Donc, je pense que c'est important de pouvoir prendre
le dessus. On aspire à être dans une autre ère. On aspire à se détacher, se défaire de cette essentialisation-là, puis de toujours être obligé de se justifier.
Tout le temps.
Quand on est une personne racisée comme toi, par exemple, de toujours avoir à revenir là-dessus, puis à toujours être questionné là-dessus.
C'est ça, exactement. Donc, c'est quelque chose que j'ai l'impression qu'il faut vivre ensemble, je pense que c'est ça. Autant du côté, par exemple, du côté de ici ou même de mon côté à moi, il y a des pas qui sont à faire. Mais en même temps, je pense qu'il faut, il faut être à l'écoute. Il faut être à l'écoute des communautés culturelles. Il faut tendre l'oreille. Puis quand il y a quelque chose qui est fait... qu'on dit que c'est offensant, je pense qu'il faut prendre le temps de penser, puis réellement de revoir les étapes de production, puis pas juste se défendre, puis de créer « Ah, oh, je suis pas raciste, je suis pas raciste. »
Oui, c'est ça, parce que évidemment qu'il n'y a pas de mauvaise foi nécessairement dans ce genre de décision-là.
Je l'espère pas.
Il y a personne qui dit « Ha, 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 je vais être raciste, puis je vais faire du mal à telle communauté. » Il y en a, mais...
Dans l'exemple
qu'on a eu récemment, par exemple, je pense pas que les organisateurs du défilé du 375e se disaient « Ah, je suis raciste envers telle ou telle communauté. » Mais je pense que ça témoignait plutôt peut-être juste d'un manque de sensibilité flagrant.
Oui, c'est ça, exactement. Puis je pense que autant dans n'importe quel état, par exemple, si on parle de la responsabilité sociale des entreprises, ça fait partie de bien représenter dans le domaine culturel, de bien représenter les communautés culturelles, ça fait partie d'un champ de la responsabilité sociale. Parce que à cause de ce champ-là qu'on va développer, il va avoir beaucoup moins de discrimination.
Donc, bien sûr. Puis quand les personnes ne sont pas super stéréotypées, par exemple, sur nos écrans, je veux dire, c'est bien beau d'inclure, par exemple, des gens de la communauté haïtienne ou de la communauté noire montréalaise dans des séries télévisées qui se passent à Montréal. Mais quand tu prends ces jeunes-là ou ces personnes-là pour en faire les membres de gangs de rue ou les criminels, on n'est pas sorti de l'auberge. Là, tu remplis ton quota sur ta feuille, tu te donnes une petite tape dans le dos, mais au final, le problème reste le même. Là.
Ouais. Donc, c'est ça. La table ronde va se tenir le vendredi, le 11 août. Donc, ça va être de 11 à midi au Conservatoire de musique et d'art dramatique du Québec. Donc, c'est une belle collaboration qui est faite avec l'INM et puis Dame. Donc, je pense que c'est une belle initiative, c'est une belle collaboration. Puis en même temps, c'est de voir vers l'avenir qu'est-ce qu'il y en est, parce qu'on nous regarde ici, on fait partie des communautés montréalaises, puis on s'implique beaucoup. Donc, je pense que c'est cette image-là qui doit être montrée et qui est bénéfique pour tout le monde, en fait.
Oui. Ben, merci beaucoup pour ces réflexions. Tessie Jean-Paul, toi, tu fais partie de Diversité artistique Montréal.
Ouais.
Ton rôle exact, c'est...
Adjointe de communication.
Adjointe de communication.
C'est ça.
Donc,
dans les communications.
Vous tenez justement un... Dans le fond, vous avez un atelier à l'école d'été de l'INM qui va avoir lieu à la mi-août. On va publier les liens sur notre page Facebook. En attendant, on va écouter une autre chanson de Catherineau. Décidément, on est un peu en amour avec cette artiste émergente. On va écouter sa chanson « Brume » sur son album « EP Brume ».
Je reconnais cette brume qui plane sur la ville. Elle traverse les artères et contourne les passants qui ne la voient pas. Cette reine indocile, douce comme un printemps, elle se fraye un chemin jusque dans l'appartement où je l'attends. La porte ouverte. Elle me regarde un temps, mais je ne la crains pas. Elle ne voit qu'une enfant, la brume me bercera. Je la regarde un temps, puis j'entrouvre les doigts. Je la sens qui se faufile, elle monte jusqu'à mes bras, jusqu'à mes tempes. Jusqu'à mes tempes. Les étoiles s'éteignent, je n'ai pas très bien compris, et cette brume ne daignait pas m'expliquer. Elle m'a laissé ici, blessée de sous mes draps, en ne me regardant plus et en ne m'écoutant pas, elle est partie.
Vous écoutez toujours La Photo Média sur les ondes de choc.ca. En troisième partie d'émission, nous avons une autre entrevue avec Nicolas Pilon, le président du Conseil Jeunesse de Verdun. Bonjour Nicolas.
Bonjour.
Merci beaucoup d'être à l'émission. Donc aujourd'hui, on parlait des formes alternatives d'implication. Le Conseil Jeunesse, dans le fond, c'est quoi exactement? C'est une instance consultative de l'arrondissement de Verdun qui veut représenter la jeunesse. Donc comment est-ce que ça s'organise, le Conseil Jeunesse, et dans quelle démarche plus large à la ville de Montréal, est-ce que ça veut s'inscrire? Parce que on sait que le Conseil Jeunesse, ça veut s'inscrire un peu dans la hiérarchie montréalaise. Donc, un peu comment ça s'organise?
Bien, d'abord, le Conseil Jeunesse de Verdun, c'est le premier de son genre dans un arrondissement. Il y a le Conseil Jeunesse de Montréal, qui est la première instance qui a été créée il y a une quinzaine d'années, début des années 2000, qui ont fait la recommandation il y a deux, trois ans, créer des conseils jeunesse partout sur l'île de Montréal. Ça a donné qu'on a eu des élus à Verdun qui étaient partants pour l'idée. Donc, on nous a mis sur pied il y a un an et demi environ. Puis en fait, c'est une instance d'une quinzaine de jeunes qui se trouve à la fois, en fait, qui s'installe entre les élus et la société civile. Donc, on fait pas partie de l'État, du gouvernement, mais on fait pas partie totalement de la société civile en même temps. On a un rôle assez particulier. On n'est pas un organisme communautaire. On est vraiment un endroit, une espèce de conseil que les élus viennent susciter lorsqu'ils ont des questions sur les jeunes. Ça ressemble à ça.
Et c'est un organisme qui est indépendant. Donc, vous avez pas de couleur politique à proprement parler. Et vos recommandations, ensuite, vous, dans le fond, vous rencontrez en assemblée, vous émettez des recommandations, vous écrivez des rapports, puis ensuite, vous tentez de les faire entendre au auprès des élus municipaux?
Tout à fait, exactement. En fait, on a écrit un seul avis pour l'instant, l'avis sur la création du pôle jeunesse de Verdun, qui est un très grand accomplissement pour nous. On était très chanceux. On a eu la chance d'avoir des élus qui sont ouverts, comme je l'ai dit justement. On a 8 recommandations ont été acceptées. Ça s'est très bien passé. On était chanceux. Mais le conseil jeunesse, ça fait pas juste que construire des recommandations, des rapports pour les élus. On veut aussi s'impliquer au niveau social. On veut que les jeunes sachent qu'on existe. Puis d'ailleurs, à cet effet-là, on a récemment ouvert les valves de nos assemblées. C'est-à-dire qu'on se voit à peu près une dizaine de fois par année dans les assemblées. Il y a des comités aussi qui travaillent sur des enjeux particuliers. Mais on a décidé d'ouvrir les assemblées le plus possible pour que les jeunes de Verdun et d'autres arrondissements aussi qui aimeraient partir des conseils jeunesse puissent voir comment on fonctionne, qu'est-ce qui marche, qu'est-ce qui marche pas, poser à partir de nos expériences certains pas dans cette direction-là. Puis nous, ce qu'on souhaiterait évidemment, c'est qu'il y en ait le plus possible du conseil jeunesse. Ça commence à un petit peu partout. Il y en a un conseil, il y en a un à Antique Quartier-Ville, Outremont, ça brosse un petit peu. Il y a des Rosemont, Côte-de-Neige, il y a une motion qui a été déposée. Il y a aussi à Pierrefonds qui a été déposée récemment. Fait que c'est un mouvement. Il y a quelque chose qui se crée en ce moment. Puis nous, on essaie de prendre la vague puis de pousser le plus loin possible.
Et vous êtes, je sais pas si tu as posé la question, là, vous êtes combien dans le conseil jeunesse?
On est 15 membres qui sont choisis, qui sont nommés en fait par les élus des deux partis. À Verdun, il y a Projet Montréal et l'équipe Coder. Puis pour éviter justement toute la partisanerie, les deux sont sautés à la table, puis il y a une entrevue avec les membres de l'administration. Puis on a été nommés par ces gens-là. Puis comme j'ai dit, on est 15 membres, sauf qu'on vise le plus possible à ouvrir pour donner parole aux jeunes. T'sais, on disait récemment.
Donc vous faites des assemblées qui sont un peu plus consultatives.
Exactement. Les gens peuvent venir poser des questions, proposer des idées même. On avait récemment une dame qui a 27 ans, elle se disait trop vieille pour le conseil jeunesse parce que ça finit à 25 ans, mais faites parce qu'elle est des jeunes. Puis elle était professeure à une école primaire, puis elle sortait des idées auxquelles on n'avait pas du tout pensé. C'est pas le milieu qu'on connaît nécessairement bien. On reste, il y a des jeunes de 12 ans qui rentrent au secondaire, puis il y en a qui ont un emploi, fait que c'est extrêmement disparate.
Parce que vous allez chercher en principe des gens de 15 à 25 ans.
12 à 25 ans.
12 à 25 ans, exact. C'est ça. Bon, 27 ans, c'est quand même assez jeune.
C'est très jeune.
Surtout quand on sait qu'au Parti québécois, par exemple, la définition de jeune va jusqu'à 40 ans.
C'est ça. Mais bon,
ça, c'est, exactement. Ça, c'est une autre histoire.
On s'entend que. D'ailleurs, à cet effet-là, la définition des jeunes est différente d'un conseil jeunesse à l'autre. C'est, nous, c'est 12 à 25. L'autre, c'est 15 à 30.
C'est propre à chaque conseil jeunesse.
Exactement.
Puis comment vous faites pour aller chercher, puis pour coordonner cette implication-là de jeunes qui ont des âges assez différents? Donc, on s'entend qu'un jeune de niveau secondaire n'a pas le même emploi du temps, puis n'a pas les mêmes priorités, puis pas le même bagage qu'un jeune qui est à l'université, qui a un bac, qui entame sa maîtrise. Comment vous faites pour allier un peu cette espèce de courte pointe de différentes personnes?
En fait, c'est sûr que c'est un grand défi, mais on a découvert un outil merveilleux qui s'appelle Doodle. Ça, on a réussi à se coordonner le plus possible. Puis c'est sûr que, bon, comme tu l'as dit, on a des capacités très différentes sur des sujets très différents. T'sais, un jeune de 12 ans peut peut-être pas partir à un comité puis aller jaser avec des ça. Mais il y a beaucoup de choses qu'ils peuvent faire, puis on les sous-estime pas au conseil jeunesse. On essaie de se donner des tâches, de voir où sont les forces et faiblesses de chacun, puis on pousse le plus possible pour que tout le monde puisse mettre la main à la passe au meilleur de ses capacités.
Je pense qu'à Verdun, il y a quand même une bonne mixité entre francophones et anglophones. Puis comment qu'on gère ça dans le conseil jeunesse? Il doit avoir un côté bilingue, donc comment ça marche?
C'est le gros hic avec le conseil jeunesse, c'est que ça fait partie de l'instance de l'arrondissement, puis l'arrondissement ne peut pas publier en anglais. Fait que pour nous, c'est difficile d'aller chercher ces jeunes-là. C'est sûr que c'est un défi constant. On a deux anglophones pour l'instant, mais on cherche... Bon, on en discute souvent, en fait, à savoir comment est-ce qu'on va aller chercher. On va aller à l'école, l'Académie Burling, en fait, qui est une école anglophone. En plus, là-dessus, c'est des ponts qu'on veut créer le plus possible. Les élus nous ont parlé aussi. C'est sûr qu'il y a cette problématique-là, puis elle est difficile à adresser.
Parce que Verdun, c'est beaucoup anglophone, quand même.
Il y a beaucoup d'anglophones, effectivement, mais on veut l'adresser. Là. C'est vraiment ça qu'on, ouais. qu'on fasse. Ouais, c'est ça. C'est difficile, mais on met la main à la porte. On n'a pas le choix. Là.
Puis, je voulais savoir aussi, comment est-ce qu'on s'assure en tant que jeune de non seulement, oui, bon, il y a eu ce conseil-là, ce jeunesse de Verdun qui a été créé, donc ça dénote quand même d'une certaine ouverture de la part des élus municipaux de Verdun et même de la ville de Montréal, puisqu'il y en a un à la ville, mais comment est-ce qu'on s'assure d'être entendu par la suite par ces élus-là quand on fait une recommandation? Comment on se fait entendre?
Ben, ultimement, c'est difficile de se faire entendre si les élus sont pas ouverts. On peut pas les forcer à faire quoi que ce soit. On peut pas, je dis souvent qu'on est la condition suffisante, nécessaire, en fait, condition nécessaire à ce qu'un conseil geste marche, c'est les élus qui sont ouverts. Parce que sinon, ça marche un peu dans le vide. T'sais, on peut agir comme un OBNL puis créer des trucs ici et là, mais ça perd un peu son purpose, désolé, anglicisme. ben, le mot anglais. L'idée, c'est d'avoir une bonne connexion avec eux, de jaser avec eux, parce qu'ils ont souvent des idées, ils nous proposent des trucs comme ça. Puis nous, à Verdun, ils veulent pas que la partisanerie influence. Fait que, tu sais, ils ont aussi cette distance-là qui s'est créée. Mais le but, c'est, je pense, que c'est ce moment-là où il faut, en fait, ce qui marche à Verdun, c'est que les élus jasent avec nous, on jase avec eux. Puis on connaît nos rôles. Ils savent pourquoi on est là, puis ils nous laissent la place, puis on essaie de prendre cette place-là qu'ils nous ont donnée. Ça arrive plusieurs fois, ils nous disent « Ah ben les jeunes, ouais, voici ce qu'on aimerait que vous pensiez. » Fait que voilà.
Puis le pôle jeunesse que vous voulez mettre en place, comment ça s'organiserait? Est-ce que tu peux nous en dire
un peu plus? Oui, bien sûr. Le pôle jeunesse, c'est, comme je l'ai dit, le premier avis qu'on a écrit. Le pôle jeunesse, ça part de l'auditorium de Verdun, qui est un aréna, ou derrière voir la plage, la future plage de Verdun, où il y a un immense parc jusqu'à l'école secondaire.
Oui, d'ailleurs, la plage, ça se concrétise en 2018.
Je pense que les premiers pas de terre ont commencé déjà. Okay. Ça va être ouvert en 2018 si tout va bien. On prend tout ce parc-là puis on veut créer une telle chose que le pôle jeunesse. Donc, un endroit qui favorise les jeunes. On veut que les jeunes y aillent puis se sentent chez eux. Chez elle. Et on veut qu'ils s'y réapproprient cet endroit-là, qu'ils fassent des activités qui sont les leurs, sans évidemment que ça l'implique. En fait, on veut que ça implique tout le monde, les jeunes et moins jeunes, mais on veut que les jeunes sachent que c'est un endroit merveilleux. Je veux dire, c'est un étendu vert où il y a des sports à n'en plus finir, il y a une aréna, il y a une école, le métro est proche, il y a tout. On veut que les jeunes sont à l'aise d'aller là, qui intègrent l'espace, qui a un tissu social qui se crée. Comment on va le mettre en place? On a discuté avec l'administration déjà. La majorité des trucs vont se faire, de nos recommandations vont se faire. Il y a des petites difficultés parce qu'il y a des gros réaménagements qui vont se faire dans les prochaines années déjà. Toutefois, c'est une question de budget et de temps. Bon, le budget est clos pour cette année. Fait que pour cette année, les trucs qu'on peut pas nécessairement faire. Pour l'année prochaine, on nous a dit qu'il y a d'excellentes chances que ça se fasse quand même. Évidemment, les élections en chemin. Donc, c'est sûr que c'est une donnée qui peut changer le tout. Mais généralement, en fait, de ce qu'on nous a dit, c'est bien accueilli. Les gens sont d'accord. Ils trouvent que c'est une bonne idée. Fait que ça, on planche là-dessus. Sinon, on a été discuté aussi au niveau, au palier provincial avec Isabelle Melançon, qui est la députée libérale de Verdun, sur un des aspects qui est la création d'une application, en fait, ou d'une espèce de plage horaire où les jeunes pourraient s'investir. Puis, par exemple, on sait pas ce qu'on va faire un mardi après-midi, mais on va sur l'application, puis ça donne que notre ami Joe Blow m'a organisé un match de soccer. Fait qu'on peut y aller, on se connaît pas, mais on apprend à se connaître, puis finalement, ben, avec la force des choses, on va faire des choses ensemble, on va faire du yoga, on va aller lire.
Ah, c'est une super idée.
On planche un peu là-dessus en ce moment. C'est un des gros projets qu'on a.
Vas-y.
Moi, j'ai une petite question concernant, bon, je parle toujours de ça, là, mais comment qu'on va chercher, est-ce que tu trouves que la représentation des communautés culturelles, elle est satisfaisante? Sinon, est-ce que vous avez des initiatives pour aller chercher plus de personnes? Parce que c'est sûr que vous avez quand même un certain pouvoir auprès des élus, donc ça vaut la peine des fois de faire entendre les voix, surtout des jeunes, des communautés culturelles, donc... Tu sais, j'aimerais un peu savoir...
Bien sûr. Mais en fait, à la base, le conseil se veut le plus diversifié possible au niveau linguistique, au niveau culturel, au niveau de la disparité économique, au niveau de la disparité physique. Verdun, il y a l'île des Sœurs, Verdun aussi, qui est un monde complètement différent là, pour l'instant. Fait qu'à la base, les élus essaient de le faire le mieux qu'ils peuvent. Quand il n'y en a pas, c'est sûr que c'est un peu à nous d'aller dans cette direction-là. Ce qu'on avait mis de l'avant le plus possible, c'était, en fait, les deux gros ponts sur lesquels on voulait créer, c'était plancher cette année, considérant qu'on reste une nouvelle organisation, c'était les anglophones, on en a parlé juste un instant, et les communautés autochtones qu'on veut absolument intégrer. Fait qu'on est, d'ailleurs, moi et Marie, la vice-présidente, on a été discuter avec une organisation autochtone. On crée des liens, le CSAI aussi, qui est le Centre social d'aide aux immigrants. Ces ponts-là sont là. Ce qui est difficile, c'est de trouver des jeunes qui veulent s'impliquer. Mais on essaie le plus possible. D'ailleurs, l'idée d'ouvrir les assemblées se veut une optique précisément dans une question de représentation. On veut que les jeunes viennent, mais pour que les jeunes viennent, il faut qu'on se fasse connaître, il faut qu'ils sachent qu'ils existent, il faut qu'ils sachent qu'ils ont une voix, que leur voix a une voix, je peux dire comme ça. Puis on planche vraiment là-dessus. C'est sûr que c'est difficile. Ça reste difficile parce que je reste un homme blanc, je connais pas nécessairement les fonds de ton compte de toutes les communautés culturelles, fait que ça reste difficile de pénétrer, d'aller chercher des jeunes. Il y a plein de gens qui seraient partants, mais ça va être difficile. Sauf que c'est dans nos projets aussi.
Est-ce que c'est dans la façon peut-être de... Est-ce que tu trouves ça difficile dans la façon d'aller chercher les gens ou...
Pas tant les gens que des jeunes des okay. communautés culturelles. C'est, on en a quelques-uns. Malheureusement, il y en a certains et certaines qui ont déménagé. Fait que faute d'habiter à Verdun, c'est ouais. difficile à ce moment-là.
Mm-hmm. C'est sûr.
Mais non, c'est ça. C'est pas tant ça qu'il faut des jeunes particuliers mm-hmm. qui viennent de communautés culturelles mm-hmm. qui veulent s'impliquer. Fait que c'est ça ouais. qui est difficile à faire.
Ben écoute, Nicolas Pilon, merci beaucoup d'avoir été à l'émission. C'est tout le temps dont on disposait. On te réinvitera peut-être à une autre émission.
Ben merci, c'était un plaisir pour moi.
Donc, je rappelle que Nicolas Pilon est président du Conseil Jeunesse de Verdun. Petit avertissement, Marie Chabot-Jensen à la recherche est vice-présidente du Conseil Jeunesse de Verdun. C'est pour ça qu'on avait la plug. Merci beaucoup d'avoir été à l'émission. Je rappelle que vous écoutez la photomédia sur choc.ca. Merci à tous d'avoir été là. On se quitte en chanson avec « Sortir de moi » de Caterino.
Comment ne pas me faire marcher dessus? Jamais compris comment la paume de ma main pouvait m'apprendre ce qui m'arriverait demain. Tu m'avais dit que j'étais maîtresse de moi-même. C'est en dehors que se déroule la fête, et quelques facteurs immuables me retiennent. Te rappelles-tu? Je t'ai déjà dit que je voulais plus être une laine, que les deux jambes, que la tête qu'on m'a donnée que me contenir contre mon gré. Comment je pourrais sortir de moi, redessiner l'image que je vois, savoir demain que je suis au bon endroit au bon moment. Comment je pourrais faire marche arrière? J'aimerais savoir pourquoi la carte du destin a insisté pour faire se croiser nos chemins.
C'est un arôme.
Celui qui s'accroche à ta voix, celui qui a teinté tes doigts, ce même arôme que tu es, tu le ramènes à chaque soir.
Je me suis lié à la foule, je m'en suis allé. Favorable pour un temps au vacarme, aux actions intentées contre ce qu'on évoque simplement, contre la règle, les fragments. Je me suis ouvert à l'oubli du soir, où par effraction je m'étais égaré. Je me suis ouvert à l'oubli du soir, favorable aux actions.